Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Bon voyage, monsieur.
RM Show.
Bon voyage, madame.
Tout de suite sur la voie d'Amérique.
Avec un bon équipier, RM Show.
ヘイラギリカルオトマキデエレムショウワチヘイアカニデアドマネイ
アンパンギナベトエレムショウロジェモントライコネア
ガニハメンヘウ
ロジェモント
エレムショウマンドモカカテ
コネクダイ
ネギアルワイ
ビトグドニヨプシデロ
バンボンスバクウェイトカサイミカラミアレムショウエミシュウエミミンペニエイエウエ
Bon voyage tout le monde, les amis, ici Roger Muntou, Studio 13, Micro 5, ici c'est Washington, la capitale de United States of America. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, c'est VO Afrique. On est ensemble pour nous appeler en live, c'est au 001-202-619-3140. Aujourd'hui, c'est African Music dans RM Show. Et bien sûr, on continue avec notre sujet de cette semaine, un sujet hebdomadaire, bien sûr, où on parle des couples, des relations de couples et des belles familles. Et aussi, les jeunes s'expriment face au président qui s'accroche au pouvoir. C'est dans cette émission, d'abord le tour de l'actualité avec Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Roger. Le président de l'Assemblée nationale gabonaise, Guin Zoubandama, a démissionné aujourd'hui après avoir passé 19 ans à ce poste. L'annonce a été faite lors d'un discours devant les députés, discours retransmis à la radio publique avant d'être interrompu. Jean-Rovis Dabani.
Selon son entourage, cet ancien compagnon d'Omar Bongo se présentera comme candidat indépendant, mais sera toutefois soutenu par le mouvement Héritage et Modernité, courant fondeur de députés dirigé par l'ancien ministre du Pétrole, Alexandre Barreau-Chambrier. Leader incontesté de sa province d'origine, qui constitue avec le Haut-Ogooué, province natale d'Omar Bongo, la colonne vertébrale du régime, Guin Zoubandama a lancé la carrière de nombreux cadres qui le restent fidèles.
Deuxième tour des législatives en République centrafricaine aujourd'hui, Freeman Sipila est sur place.
Ce scrutin aura été celui qui a mobilisé le moins d'électeurs depuis le référendum du 13 décembre de l'an dernier. 85 sièges sont à pourvoir au Parlement. En dehors de quelques difficultés liées à l'ouverture un peu tardive de certains bureaux de vote, les opérations se sont déroulées dans le calme à Bangui et à l'intérieur du pays. Des observateurs électoraux déployés sur le terrain ont noté une nette amélioration dans l'organisation du vote.
De nouvelles allégations de violences sexuelles exercées par la force française Sangaris en Centrafrique sont parvenus aux Nations Unies. D'après l'ONU, des soldats français auraient forcé des jeunes filles à avoir des rapports sexuels avec des animaux en échange d'une somme d'argent. La France veut faire toute la lumière sur les accusations d'abus sexuels par ces soldats en Centrafrique, a affirmé aujourd'hui l'ambassadeur français auprès des Nations Unies. Au Rwanda, un tribunal militaire a condamné hier à Kigali, plutôt aujourd'hui à Kigali, l'ancien chef de la garde présidentielle et un général en retraite à 21 ans et 20 ans de prison. Ils étaient accusés d'incitation au soulèvement. La troisième banque de la République démocratique du Congo a annoncé aujourd'hui à Kinshasa avoir limité les retraits à ses guichets face à une brutale crise de liquidité. Les difficultés de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, témoignent de la situation économique délicate que traverse la RDC du fait de la chute des cours des matières premières et elle risque de nuire aux efforts du gouvernement pour favoriser l'accès bancaire dans un pays où moins de 5% de la population dispose d'un compte en banque. À Bissau, le procureur général de la République tire la sonnette d'alarme. Les djihadistes prétendent recruter parmi les jeunes.
Le procureur général de la République de la Guinée-Bissau, Antoine Sédiama, a alerté ce jour à la presse l'augmentation du recrutement des jeunes bissau-guinéens par les organisations terroristes. Antoine Sédiama a expliqué que le phénomène aurait atteint la Guinée-Bissau, mais non pas en termes d'action sur le terrain, mais en ce qui concerne le recrutement par les djihadistes, et que cette pratique a eu lieu depuis 2012.
La justice belge a donné aujourd'hui son feu vert à l'extradition en France de Saleh Abdeslam, suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris. Le Royaume-Uni va fournir près de 30 millions de dollars à l'armée libanaise, principalement destinée à aider ce pays à sécuriser sa frontière avec la Syrie. Et 4 policiers ont été tués, 14 personnes blessées dans un attentat à la bombe aujourd'hui à Diyarbakir, la principale ville du sud-est de la Turquie, à majorité kurde. Voilà pour les nouvelles. On retourne à notre pilote préféré, Roger Muntou.
Mais voilà, nous continuons à traverser l'Atlantique dans cet avion super fast, supersonique. J'y disais tantôt, les jeunes s'expriment face au président qui s'accroche au pouvoir. C'est dans cette émission et vous pouvez bien sûr participer en live sur notre page Facebook VOA Afrique ou alors vous nous appelez au 001 202 619 31 40 sur WhatsApp. Je suis présent aussi, bien sûr, c'est au 001 703 350 37 31. D'abord, on décolle des invités. C'est dans cette émission une surprise pour beaucoup.
J'ai donné des mains pour m'imposer. Mon coupé décalé confirmé. Oh, ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon coupé décalé. Oh, Beno.
Sing it.
Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est.
Bien sûr, là, les amis, ils sont en train de traverser l'Atlantique. 001 202 619 31 40 pour participer à cette émission. Les jeunes. Les jeunes s'expriment face au président qui s'accroche au pouvoir. C'est votre sujet, vous l'avez proposé. Bien sûr, dans cette émission, nous aurons deux invités de marque et nous allons parler, bien sûr, avec mon ami Galis Junior qui est là. Galis, écoute, ouais. On n'oublie pas notre sujet de cette semaine non plus. Hein. Écoute, quand on dit interrelation là, écoute, comment résoudre les problèmes entre couple et belle famille? Parce qu'on sait que non, quand une paire, quand tu t'es marié là, Galis, tu es déjà marié?
Qui, moi?
Ouais.
Non.
tu as pris le temps pour réfléchir là?
Non.
Mais écoute, c'est bien. Écoute, c'est bien parce que quand tu vas te marier, là, tu auras besoin des conseils des grands.
En tout cas, ça, j'ai pensé d'abord, quoi.
Sinon, tu seras entre le marteau et l'enclume.
Ah, mais tu sais, nous, Africains, là, quand on se marie, quand on marie la femme, on marie la famille en même temps.
Mais c'est ce que beaucoup de gens nous ont écrit.
Donc, avant de te marier, tu réfléchis 2 à 3 fois quand même. C'est sûr.
Mais ça, c'est vrai. Tu réfléchis trop et c'est de ça qu'on va parler. D'ailleurs, je demande aux amis de nous envoyer leur message sur notre page Facebook et aussi m'écrire sur WhatsApp 001 703 350 37 31. Mais aujourd'hui aussi, les jeunes ont demandé à ce qu'on parle de ce sujet. Galis, c'est un sujet très important.
Ouais.
Ils disent, voilà Roger, beaucoup de présidents en Afrique ou dans le monde, s'il y en a, dans d'autres parties, je ne sais pas, des présidents qui veulent s'accrocher au pouvoir. Et ça, c'est un problème.
Ouais. Un grand problème.
Alors, pour en parler aujourd'hui, dans ce studio, nous avons l'honneur et les privilèges de recevoir M. Floribert Anzulouni, coordinateur du mouvement congolais pro-démocratie, je dois le dire.
Merci.
Voilà, merci. Filimbi est de la plateforme Front Citoyen 2016, c'est ça?
C'est ça, bonjour.
Fleury-Bert, ça fait tellement plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je sais qu'on vous a déjà eu au téléphone une fois, mais vous avoir en direct, en live, ça nous fait tellement plaisir. Merci d'être là.
Merci à toi de nous avoir invités.
Ben super. Voilà, c'est Fleury-Bert Anzuluni. Et je rappelle aussi que nous avons M. Paul Nsapu, qui est le président de la Ligue des électeurs et secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme en Afrique. M. Paul Nsapu, merci beaucoup d'être là.
Merci, Roger.
C'est un grand plaisir, un honneur aussi de vous avoir ici.
Vraiment, merci.
Alors, je commence avec vous, M. Paul. Qu'est-ce qui vous amène ici à Washington, hein?
Eh bien, c'est juste pour alerter sur le danger qui guette la République démocratique du Congo, qui est un pays qui, sur le plan géostratégique, en Afrique, joue un rôle très important par rapport à la paix dans la sous-région et la paix, la sécurité qui est aujourd'hui menacée par ce grand pays par rapport à tout le travail qui a été fait pendant 15 ans avec la présence de la communauté internationale qui a essayé d'accompagner la situation dangereuse dans laquelle se trouvait la RDC et qui aujourd'hui presque se retrouve dans une situation, si on ne fait pas attention, nous allons regretter et cela aura des conséquences sur la paix, même au niveau international. Nous sommes là pour alerter les décideurs de ce pays, aux États-Unis d'Amérique, sur la dérive dangereuse que prend le régime de Kinshasa par rapport à l'alternance, et au respect de la démocratie, et au respect de la Constitution, auquel tient la large majorité de notre peuple, pour qu'enfin on puisse vraiment consolider le peu d'efforts, le peu de succès qui ont été engrangés pendant à peu près une vingtaine d'années. Voilà pourquoi nous sommes là, et pour dire non, nous devons respecter la Constitution, nous devons tenir des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels.
Et vous êtes sûrement au courant du renouvellement du mandat de la MONUSCO aussi, hein, qui doit répondre à la répression contre la société civile.
Tout à fait, ouais. Nous avons été à New York, il y a de cela quelques semaines, au début de ce mois, de mars, pour faire du plaidoyer et alerter les membres du Conseil de sécurité sur cette triste situation. Et aujourd'hui, nous nous félicitons que la résolution 2277 ait pris en compte nos préoccupations qui sont celles de la société civile congolaise et partant de la large majorité de la population congolaise.
Monsieur Paul, je vous présentais tantôt comme président de la Ligue des électeurs et secrétaire général de la Fédération internationale de droits de l'homme en Afrique, s'il vous plaît. Donc, quelque part, vous représentez l'Afrique. Et l'Afrique, qui est la reine des records de longévité au pouvoir, avec plusieurs chefs d'État en place depuis plus d'un quart de siècle. C'est le cas des présidents Obiang, par exemple, qui, lui, je crois, a 36 ans. Paul Biya au Cameroun, 33 ans. Dos Santos en Angola, 33 ans. Museveni en Ouganda, 29 ans. Robert Mugabe, 91 ans au pouvoir. Et, le plus vieux, d'ailleurs, du continent africain. Et même du monde, devant l'Italien, Giorgio Napolitano, 90 ans. Alors, est-ce que vous voulez dire que c'est un problème beaucoup plus en Afrique? C'est un problème pour l'Afrique? Ça freine le développement de l'Afrique, d'après vous?
Et tout à fait. Sur le plan politique, si la situation est désarticulée, il y a des conséquences sur le plan économique et d'autres domaines, social et même culturel. C'est un véritable problème. La gestion de personnes et des biens, la gestion des États-nations, etc. Si cette gestion ne suit pas les normes et les principes, je pense que les conséquences sont négatives et on freine alors le développement en Afrique subsaharienne.
Alors, est-ce que vous pouvez quand même dire ici qu'il y a eu de progrès de droits de l'homme en Afrique ou des pays, des exemples que vous pouvez avancer ici?
Il y a le Sénégal, il y a le Bénin, donc pour ne citer que cela, en Afrique subsaharienne. Mais ailleurs, il y a vraiment des situations, il faut voir au cas par cas, pays par pays, il y a des situations catastrophiques, comme en République démocratique du Congo, mais également Il y a des situations qui ne sont pas reluisantes sur le plan des droits de l'homme, mais qui peuvent, si on y travaille de près avec les nouveaux acteurs, qui sont les jeunes, qui sont les femmes, engagées, comme c'est le sujet de cette, ce partage, cette émission, nous allons y revenir. Là, il y a espoir, mais il y a de pays qui sont fermés ou pratiquement... Et tout est à refaire. Donc voilà la situation en Afrique subsaharienne, elle est là. Il faut absolument travailler sur tous les forums, si vous voulez, surtout sur, au niveau de l'Union africaine, pour que quelque part dans la charte africaine de droits de l'homme et de peuple, on insère une disposition, un article qui ferme la possibilité d'avoir plusieurs mandats. Donc on peut retenir dans cette charte, insérer une disposition qui maintiendrait par exemple un mandat, deux mandats, donc un mandat renouvelable une fois, une seule fois. Voilà tout le défi que nous avons, nous qui opérons dans les domaines des droits de l'homme et de la démocratie.
Merci beaucoup, Monsieur Paul. Et vous n'êtes pas seul, comme je disais tantôt, Monsieur Floribert, n'est-ce pas, Anzuluni, qui est là avec nous. Finalement, en face, parce que on a couvert la VO Afrique a beaucoup couvert sur Filimbi. Et aujourd'hui, vous avoir en face, c'est un très grand plaisir. Et RM Show est beaucoup écouté partout en Afrique. Hein, ça serait un grand plaisir de nous dire encore ou rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que c'est Filimbi. Et le but même, les objectifs même de Filimbi.
Filimbi, c'est très simple. En réalité, Filimbi, c'est un ras-le-bol. C'est le ras-le-bol d'une génération. C'est une génération qui dit ça suffit. La mauvaise gouvernance, il y en a assez. La mauvaise gestion de l'État, il y en a assez. La corruption, il y en a assez. Et en définitive, nous voulons que les autorités de notre pays, de nos pays respectifs, agissent en faveur de cette jeunesse qui représente la majorité de la population. Et nous disons à travers Filimbi, nous avons participé à la création de Filimbi simplement parce que nous estimons qu'il est important que cette majorité, que cette jeunesse se rassemble, se regroupe à travers un réseau pour, un, développer des capacités de compréhension des lois, compréhension du fonctionnement de l'État, mais aussi développer des capacités nécessaires pour pouvoir influencer sur les décisions. À un moment donné, les autorités, lorsque dans un pays démocratique où on voit de démocratiser, les autorités ne pourront agir véritablement en faveur des citoyens, la majorité des citoyens, que si les citoyens sont debout, que si les citoyens sont engagés et si les citoyens comprennent leur rôle et jouent pleinement leur rôle. Et le souci de Filimbi est de permettre justement à cette jeunesse de jouer pleinement son rôle, de s'engager et en définitive d'être capable d'influencer sur les décisions pour qu'elle profite à la majorité des citoyens. Voilà en définitive ce qu'est Filimbi. C'est plus, et puis c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit.
Un état d'esprit. Alors vous avez parlé d'être engagé pleinement. Parler d'être engagé pleinement, cela ne veut pas dire violence.
C'est un élément très important. Dans la non-violence, le strict respect de la Constitution et des lois. Ça, c'est la base de Filimbi, c'est la base même d'un mouvement citoyen. Toute action citoyenne doit respecter la Constitution et toutes les lois et surtout les principes de non-violence. Donc toutes les actions que vous verrez sous le label de Filimbi ou tout autre mouvement citoyen comme la Lucha et autres seront des actions non-violentes.
Et pour nous rappeler un peu, allons juste pour nous donner encore une idée de ce qui s'était passé à Kinshasa, quand vous étiez là, je sais que vous avez fait beaucoup, pleinement d'interviews, vous avez parlé sur ça, mais c'est mieux qu'on rappelle quand même aux auditeurs qu'est-ce qui s'était passé un peu à Kinshasa quand vous y étiez et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une progression? On a entendu parler que certains des prisonniers ont été relâchés, certains qui étaient en prison, et qu'est-ce qui se passe, l'actualité en ce moment?
Ce qui s'est passé d'abord le 15 mars 2015 est extrêmement grave. Nous avons simplement lancé, après 2-3 ans de réflexion, de travail de un petit peu de terrain, d'identification de jeunes engagés un petit peu partout à travers le pays, nous avons décidé de lancer le mouvement Filimbi. Ce lancement s'est fait en 2 jours. Premier jour, c'était une conférence débat, clôturée le deuxième jour dans la matinée, ensuite suivie d'une conférence de presse au cours de laquelle nous devions annoncer officiellement le lancement du mouvement citoyen Filimbi, suivi d'un concert populaire, le tout se passait dans le quartier populaire de Massina, commune populaire de Massina. Mais après la conférence de presse, nous avons été désagréablement surpris de voir des militaires armés jusqu'aux dents, services de renseignement, une cinquantaine, débarquer sur des pick-up, arrêter tout le monde, nous brutaliser, nous agresser. Certains d'entre nous, grâce à Dieu, gloire, grâce à quoi, on ne sait pas, n'ont pas été arrêtés, dont moi.
Et c'est là où je dois vous arrêter pour un moment. Comment certains ont été arrêtés, certains n'ont pas été arrêtés? Qu'est-ce qui explique cela? Vous avez eu la chance, vous coordinateur, vous avez eu la chance de partir. Heureusement que vous êtes là en face de nous. Mais les autres ont été arrêtés. Et certains se posent la question, pourquoi Floribert s'est échappé, il est bien, et les autres ont été arrêtés.
Nous étions, pour préciser, nous étions exactement au nombre de 6 membres du comité d'organisation, ne pas avoir été arrêtés. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est le désordre avec lequel ces arrestations s'est effectuées. Ils sont venus avec quelques pick-up, le nombre je ne pourrais pas le dire, c'était tellement désordonné. Ils ont arrêté dans un désordre complet, ils ont commencé à arrêter à l'extérieur, ils ont arrêté à l'intérieur, à un moment donné, les pick-up étaient remplis. Et ils ont laissé une dizaine, une quinzaine de personnes, parmi lesquelles quelques journalistes locaux et quelques membres de la coordination. Et lorsqu'ils sont arrivés, en fait, leur priorité était clairement établie. Ils avaient des téléphones et ils cherchaient les étrangers, mais les étrangers ouest-africains. Donc les amis des mouvements Balais Citoyens et Yann Amar qui étaient invités pour participer au lancement. Ensuite, ils ont commencé à arrêter la presse internationale, très clairement. Ensuite, ils arrêtaient toute personne qui donnait l'impression, celui qui filmait, celui qui ne... C'était vraiment une arrestation complètement, à un moment donné, anarchique. Et donc, voilà, c'est vraiment complètement par hasard que personnellement...
Et vous avez quand même cherché à savoir pourquoi...
J'ai échappé à cette arrestation. Ouais. Ensuite, ce qui nous pousse à rentrer très rapidement en clandestinité et ensuite, quelques temps après, à chercher à sortir du pays, c'est le fait que... Les jours qui ont suivi, l'agressivité avec laquelle le dossier a été traité, le ministre de la Communication, de manière très irresponsable, permettez-moi de le dire, et vraiment irresponsable, a tenu une conférence de presse. On nous a traités de terroristes, de tentatives de coup d'État. Nous étions armés, nous louions des villas dans lesquelles nous formions des jeunes aux méthodes d'insurrection. Bref, on nous a présentés comme des terroristes. Et donc, clairement, nos vies étaient en danger. Des amis ont été arrêtés, une quarantaine ont été arrêtés avec les amis du Burkina et du Sénégal. Pression du président burkinabé et du président sénégalais. Quelques jours après, on a libéré les amis du Sénégal. Pression locale et pression internationale. On a libéré la grande majorité des personnes, des jeunes arrêtés, qui étaient principalement des artistes et autres invités à la conférence de presse. Mais jusqu'aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'on détient toujours deux personnes, deux jeunes frères et compatriotes, Yves Makwambala et Fred Bauma, qui sont toujours illégalement et injustement détenus depuis bientôt plus d'un an.
Ils ont été aussi accusés de complot contre l'État.
Nous sommes tous accusés de complot contre l'État, de tentative de coup d'État, renversement des institutions, sans aucune preuve. Ça, c'est clairement établi, sans aucune une preuve, mais accusé et détenu jusqu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Floribert. Nous avons un appel de Maury Touré qui nous appelle de Bamako. Allô Maury Touré, comment ça va frère?
Oui, ça va. Comment vas-tu Roger avec tes superbes invités? Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre parler de Filimbi parce qu'à un moment donné, on pensait qu'on avait oublié Yves et Fred de Filimbi. On en parle même souvent, que ce soit avec le Balais Citoyen, que ce soit aussi avec quelques membres du Yann Amar. Moi, je suis extrêmement content aujourd'hui que tu fasses cette émission parce qu'il ne faut pas oublier ces deux hommes-là qui sont, comme il l'a dit tantôt, le confrère, le frère.
Oui, c'est Floribert.
Emprisonné du côté du... Injustement. Je crois que... je voulais revenir un peu sur ce que vous avez commencé comme débat. Il faut que nos chefs d'État comprennent de plus belle. Ils comprennent de plus belle. Qu'il y a un an, une jeunesse africaine, ouest-africaine, a donné un signal extrêmement fort. Pour dire jusqu'à présent, au contraire, le pouvoir appartient au peuple. Et que quand le peuple ne veut pas, et que ça va être complètement difficile pour eux. Il faut aujourd'hui que le gouvernant du RDC comprenne quelque chose. Les lois, c'est elles qui l'ont faite. Il faut qu'ils la respectent. Et Dieu merci, aujourd'hui, cette nouvelle jeunesse africaine ne va plus se laisser faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir d'emprisonner des jeunes, mais le jour que ce peuple-là, cette jeunesse-là se mettra ensemble, je ne pense pas qu'ils pourront faire quelque chose. C'est vraiment dommage parce qu'il faut qu'on change les habitudes, il faut qu'on change des choses. Comment tu peux comprendre qu'il y a des pays qui existent indépendants depuis 55 ans, il n'y a que seulement un président ou deux présidents depuis 55 ans. Il faut que l'alternance se fasse aujourd'hui sur le continent. Nous sommes dans un autre tournant, la globalisation. Il faut aujourd'hui que nos présidents sachent que non, que nos pays doivent véritablement. Tous les indicateurs ont montré que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais on ne pourra pas le faire si on n'a pas de gouvernance, si on n'a pas une jeunesse fougueuse dans un environnement sain, comme je l'ai dit, dans un environnement vital.
Merci beaucoup. Maurice Touré reste là, on va en parler dans un instant. Continue avec de la musique et bien sûr de la bonne musique pour nous accompagner avec notre sujet. C'est Zouglou, un collectif Libéré mon pays.
Cigarette est finie.
On veut plus ça.
Et nous on peut plus.
on ne veut plus ça. Hein. Voilà, c'est collectif Zouglou. Hein. Zouglou, la belle musique. Hein. Ça aime beaucoup Zouglou. Hein. Parce que Zouglou, tu sais, hein, ils disent tout ce qu'ils veulent. Hein. C'est un peu comme le rap, hein, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement. Effectivement, des histoires qu'ils racontent, mais qui a vraiment un très bon dénouement, quoi, des leçons à prendre.
C'est comme vous les rappeurs.
C'est très sensé, ouais, c'est sûr. C'est sûr, il faut des messages derrière tout, quoi. C'est
ça,
important.
C'est sûr.
Ouais.
Mais les amis, restez là pour la deuxième partie de cette émission, RM Show, c'est dans un instant. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parle des jeunes qui s'expriment face au président, qui s'accrochent au pouvoir. C'est notre sujet aujourd'hui dans RM Show, pourquoi pas. Ne quittez pas la deuxième partie de RM Show, continue dans un instant. Et nous revenons dans un instant. Merci beaucoup à Lionel Gaïma. Peace Africa.
Estamos aqui em Hollywood. É um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música. É no show do RM. Não
perca.
RM Show est venu gagner au Giza et du monde musique au Giza. Tout le monde est calme.
Les amis branchés sur la voie de l'Amérique d'un pays d'Haïti, pas raté, volent ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion qui est un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa dame. Roger Montou, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Bienvenue. À part ici, on a ce qu'il y a à tout. En tout cas, RM Show, hein. La mise à cause, alors, à part, on a tout à cité. À part, nous.
Voyo, Jessmé, la parade de RM Show, Bané.
Chers passagers de RM Show, on décolle.
This is RM Show, let's go les amis. Ici Roger Muntou, Studio 13, Micro 5. On continue avec cette émission. C'est la deuxième partie de RM Show et aujourd'hui on parle des jeunes qui s'expriment face au président, qui s'accrochent au pouvoir. Aussi notre sujet de cette semaine continue aussi. Hein. Comment résoudre les problèmes entre couple et belle famille? Vous avez le temps de réagir là-dessus. Et nos invités, M. Floribert Anzuluni, coordonnateur du mouvement congolais Pro-Démocratie Filimbi et de la plateforme Front Citoyen 2016. Et M. Paul Nsapou, président de la Ligue des électeurs et secrétaire général de la Fédération internationale de droits de l'homme en Afrique, Floribert Anzuluni. Notre sujet de cette semaine dans cette émission, parce qu'on ne parle pas toujours des jeunes qui s'expriment face au président, qui s'accrochent au pouvoir, mais aujourd'hui on parle, enfin cette semaine dans cette émission, on parle de comment résoudre les problèmes entre couple et belle famille. Je devais quand même te poser cette question. Je devais quand même un peu te poser cette question. Alors là, tu as vraiment fait attention à ce que tu dis.
Oui,
hein.
oui.
Parce que là, tu es sur Facebook
oui,
Live.
Oui.
Coucou. T'as tout compris, hein.
Coucou, ma chérie.
Mais tu sais que c'est un problème.
Oui.
C'est un problème.
Oui.
Tout le monde a ce problème-là.
Oui.
Et souvent, nos sujets, ce sont les auditeurs qui le proposent.
Oui.
Ton expérience, qu'est-ce que tu as à dire? Comment résoudre ce problème?
Bah écoute, pour moi... Hein,
parce que moi, j'ai comme l'impression... Floribert, pardon, je m'excuse tant. J'ai comme l'impression que les hommes, on devient un peu victime dans tout ça. Parce que t'es au milieu entre ta femme et ta belle-mère ou tes sœurs. Ah, en fait, ta mère ou tes sœurs.
Ben, je vais dire qu'il faut... Il faut d'abord, je pense que c'est un état d'esprit avant tout. Il faut se mettre en tête que c'est une situation qui arrive et qui va arriver quoi qu'il arrive.
Être préparé.
Ça, c'est être préparé.
Mentalement.
C'est mentalement
ouais,
préparé.
Ouais.
Deuxième chose, je crois qu'il faut savoir minimiser certaines choses.
Ah bon?
Dire que oui, absolument. Parce que dans tous les cas, votre épouse ou votre mari restera votre époux ou votre épouse, quoi
ouais,
qu'il arrive.
Ouais, ouais.
Dans tous les cas, la belle famille restera
c'est
ce qu'elle est. Elle se comportera toujours
c'est
comme
vrai
ça. Donc il faut savoir, on va dire, relativiser certaines choses et faire beaucoup de concessions.
Voyons voir ce que les grands pensent. Voyons voir ce que M. Paul ça vous pense. Un conseil des grands.
Hein? Eh bien. Bon, un dossier qui existe depuis le temps, des nuits,
c'est vrai.
Depuis
c'est vrai
que l'homme existe,
c'est vrai,
l'homme est sur cette terre.
C'est vrai.
Eh bien, ce problème sera inhérent à toute notre vie.
Aïe,
alors,
aïe.
C'est ça,
la mauvaise nouvelle, au fait.
Oui. Évidemment, il faut l'encadrer et limiter
oui,
les dégâts.
Oui.
Et pour en arriver à une situation équilibrée, il faudrait cultiver le dialogue. Le dialogue entre l'homme, l'époux et l'épouse. Le dialogue également entre, en Afrique, les familles élargies. Alors, c'est une... c'est un processus qui doit commencer dès les bas âges. Si nous avons des parents qui éduquent leurs enfants dans le respect de ce dialogue, cette vertu, dans le respect des principes, si mieux les valeurs des dignités humaines, l'homme qui était jeune et qui a baigné dans cette culture, avec cette éducation, aura à prendre la juste mesure pour respecter son époux, et pour respecter son épouse du côté de la femme, et ensemble comprendre que, voilà, nous sommes une famille élargie par alliance et autres, et que cette famille est composée d'êtres humains qui peuvent aussi, à un moment donné, revendiquer leurs droits, leur espace, leur place, etc. C'est de cette façon-là que l'on peut résoudre à l'amiable, dans l'amour et dans le respect des êtres humains qui se trouvent dans un espace donné. Voilà les conseils que je peux donner, mais nous avons toujours des problèmes, même nous, les aînés, avec nos épouses et nos belles familles, etc. Voilà.
Ça se voit vraiment que vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale de droit de l'homme. Parce que le ton que vous avez pris pour nous expliquer ça, je crois que même Galis, t'as eu des conseils, hein, free, cadeau.
Ouais, monsieur Paul a tout dit. Hein. Hein? Mais je pense qu'il a tout dit et bien dit surtout.
Ouais.
C'est clair. Je crois pas que je peux rajouter quelque chose sur ce point.
Trop bien dit. Mais je sais pas si tu avais une question aussi à poser, soit à monsieur Paul ou à Floribert.
Bon, c'est juste. Je veux juste rajouter à ce que, aux différents points que vous avez touchés tout à l'heure, du point de vue politique et point de vue artistique. Là, on sent déjà qu'aujourd'hui, il y a une réalité en Afrique. C'est que quoi ? La jeunesse africaine est consciente aujourd'hui. Vous savez, après les indépendances, les présidents africains, ils ont fait croire à toute la population que le plus important, c'était l'indépendance. Et donc, nous avons l'indépendance, c'est fini, on est libre, la vie est belle. Mais aujourd'hui, les jeunes, surtout africains, se rendent compte que le sens de la vie ne se limite pas seulement à la liberté. Et non, il y a d'autres besoins qui sont importants à couvrir, les besoins de l'éducation, les besoins de la santé. Donc cette jeunesse aujourd'hui, africaine en général, elle est vraiment prête à prendre les rênes du corsaire du développement africain. Et actuellement, c'est ce point qu'on vit et c'est vraiment déplorable que ces mêmes présidents soient encore ici. C'est une réalité que la plupart des pays, disons, sur 16 pays en Afrique de l'Ouest, nous avons 13 pays qui sont dans cette situation où depuis les indépendances, nous avons les mêmes présidents. Et ça, c'est une réalité auquel ces pays font face et ils font un changement. Donc, il y a là ce clash qui est là entre cette jeunesse qui est consciente aujourd'hui et ces présidents qui sont en place. Je pense que vraiment, on a du pain sur la planche ici. Ça va être du pain sur la planche parce qu'il ne faut pas oublier que ces présidents ont des pouvoirs qui sont certainement militaires. Donc, quelles que soient les manifestations pacifiques qui se font, mais je pense que nous avons eu l'exemple typique avec nos jeunes artistes qui ont essayé de créer le changement à travers la non-violence. Mais regarde comment la réponse a été. Malgré qu'ils passaient à travers la non-violence, ça n'a pas du tout été compris. Et en outre de cela, il faut voir plus loin. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Nous avons les populations africaines qui sont vraiment énervées, qui veulent un changement. Et les présidents qui sont là, ils connaissent ces réalités. Quelque part, ils veulent accepter. Mais il faut dire aussi que ces mêmes gouvernements, quelque part, sont aussi supportés et sponsorisés par souvent des autorités vers lesquelles on va pour se plaindre, pour porter plainte. Certains pays occidentaux qui, par exemple, supportent ces présidents africains lors des élections pour les mettre en place pour des raisons qui sont purement économiques. Ça aussi, c'est une réalité. Alors moi, je souhaite que vraiment ces institutions internationales ou bien ces leaders vraiment réalisent que les populations, qui supportent la jeunesse africaine, afin d'aider, parler à ces gens, passer à travers des méthodes purement politiques de dialogue, afin de conscientiser ces présidents qu'il est temps qu'ils partent et que la jeunesse vraiment a besoin de prendre le devant pour avancer les pays africains. Je pense que ça sera un grand support, parce que si on laisse seulement entre ces présidents africains et la jeunesse, je vous parie qu'il n'y aura pas de changement.
Et là aussi, je vois le rappeur en vous aussi, comme je disais, Tonton.
C'est sûr, c'est sûr.
Monsieur Floribert Nzuluni, je dois rappeler ici que vous êtes un banquier.
De profession.
Mmh. Et du coup, dans la politique, vous êtes lancé dans la politique. Et il y a beaucoup de gens qui diront, attends, tu as un bon boulot, t'es banquier et tu te mets dans la politique et maintenant tu es en train... Tu ne gagnes plus comme tu gagnais. Qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, je cherche à savoir, qu'est-ce qui t'a vraiment, toi, personnellement, enfin, vous, personnellement, motivé? On s'est tutoyé parce qu'on se connaît, mais qu'est-ce qui vous a motivé, Floribert, à faire de la... Ouh, moi, je ne sais pas si c'est faire de la politique, mais voilà, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas encore dire faire de la politique. je ne vais pas là-bas. Uh-huh. À faire ce mouvement ou à travailler dans ce mouvement?
Première chose, c'est qu'effectivement, quand on parle de politique, il y a beaucoup de conflits.
C'est vrai.
Je ne fais pas de c'est politique, vrai. Je ne suis pas un politicien, mais je suis simplement un citoyen engagé.
Ouais, engagé.
Voilà. Engagé. Mmh. J'ai un fort attachement simplement à mon pays, depuis toujours, depuis tout mon parcours. Et quand j'ai passé une partie de ma vie à l'étranger, quand je suis rentré au Congo il y a une dizaine d'années, je n'y suis pas rentré pour profiter du Congo. Je suis rentré pour apporter ma pierre à la construction, à la reconstruction du Congo. Et donc, en arrivant... ça m'a pris quelques années pour me réhabituer au Congo. Je vous dirais, la première semaine où je suis arrivé au Congo, j'ai pleuré deux ou trois fois, pour te dire la vérité, par rapport à la réalité que j'ai trouvée. Que je suis parti très jeune, je suis revenu à la fin de mes études. La réalité m'a complètement troublé. La première chose était revenir, se remettre un petit peu dans le bain, comprendre un petit peu ce qui se passe et après s'engager. C'est comme ça que j'ai pris quelques années pour comprendre un petit peu le système, comprendre le fonctionnement. Et après, bien évidemment, ça faisait partie de mon plan. M'engager concrètement pour que les choses changent. Encore une fois, je ne peux pas comprendre personnellement, je ne peux pas accepter vivre dans des bonnes conditions pendant que la majorité des gens vivent dans des conditions déplorables. Tu sors de chez toi et tu trouves des enfants dans la rue tous les jours qui te demandent de l'argent. Pendant que tu sors d'une résidence qui est peut-être climatisée, de ton véhicule climatisé, tu vas calmement dans ton travail climatisé. Simplement pour quelqu'un qui aime le Congo, pour quelqu'un qui a toute sa vie
Sans vous couper la parole, pour juste continuer dans ce même... Et ça, il y en a partout. Dans tous les pays, on trouve ces enfants qui n'ont... On trouve, même ici aux États-Unis.
La situation du Congo est beaucoup plus généralisée. Dans d'autres pays, c'est une minorité généralement de gens qui se trouvent dans cette situation. Au Congo, c'est la grande majorité des gens qui se trouvent dans cette situation. Nos propres famille d'abord, immédiate et directe. Donc j'étais moi dans une bonne situation, j'étais au cadre dans une banque, mais ma famille, ma propre famille, mes propres cousins, mes propres frères, étaient dans des situations inacceptables. Et donc c'est inhumain, c'est pas acceptable. Je me suis engagé depuis plusieurs années, mais plus les années passaient, plus mon niveau d'engagement prenait de la hauteur, et au risque bien évidemment de d'un moment donné de tout perdre ou de perdre une partie de ce que j'avais bâti. Mais voilà, ça fait partie. Je pense qu'à un moment donné, il faut des modèles. Ça aussi, j'ai constaté que c'est ce qui manque malheureusement dans nos pays. Il n'y a plus de modèles, il n'y a plus de références, il n'y a plus de repères. Tout le monde est dans le superficiel. Et donc, à un moment donné, il faut des gens qui prennent des risques. Il faut des gens qui, entre guillemets, se sacrifient. C'est peut-être un gros mot, mais qui s'engagent, qui se sacrifient et qui redonnent de l'espoir finalement à tout le monde. Effectivement, oui, ça a eu un impact négatif sur ma vie professionnelle. Ça, on va pas le cacher. Sur ma vie de famille, mon épouse et mon petit garçon de deux ans, sont au Congo. Et je ne vis plus avec eux, clairement. Mais en même temps, ça a redonné de l'espoir à une certaine génération qui se dit, ben voilà, il y a encore, c'est possible de s'engager, même quand on a un avantage sur les autres, c'est possible de s'engager, c'est possible de croire aux choses, d'avoir un idéal, d'avoir des valeurs, des principes, et c'est ça que nous devons retrouver, je crois, dans nos pays.
Voilà. Est-ce que vous avez peur de rentrer chez vous?
Aujourd'hui, c'est même pas peur. Moi, je veux rentrer. Je sais que je rentrerai avant la fin de cette année. Mais aujourd'hui, je suis poursuivi pour atteinte à la vie du chef de l'État, atteinte. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Ben, le jour où je prends un vol pour rentrer, je crois que je serai arrêté déjà au niveau de avant même d'atterrir. Donc je veux rentrer chez moi. Très clairement, la situation ne me permet pas aujourd'hui de rentrer dans mon pays, mais je compte y rentrer d'ici la fin de cette année.
Une question, Daddy Jamba nous a écrit sur Facebook, hein, quand j'ai dit coordonnateur du mouvement congolais pro-démocratie Filimbi. Alors, il pose la question, il existe aussi des mouvements congolais contre démocratie?
Il existe des mouvements congolais
contre démocratie?
Parce que bien sûr, il y a des mouvements congolais armés. Ils sont pour moi un mouvement armé, mais j'ai du mal à allier la démocratie, par exemple, et la prise des armes. Donc pour moi, un mouvement armé n'est pas forcément un mouvement pro-démocratie. Donc oui, il existe différents types de mouvements. Oui.
Voilà. Et Souleymane Amba nous dit, salut Roger, au Tchad, la population en a marre de pouvoir en place et même les jeunes semblent être fatigués. Bientôt, les élections et nos leaders de l'association civile sont emprisonnés. Quelle démocratie au Tchad? Il n'y en a pas. Merci beaucoup à Souleymane Amba qui encore nous écrit ici. Gabi Gangang nous écrit, les présidents africains s'accrochent pouvoir et considère le pouvoir étatique comme un pouvoir traditionnel. La population doit prendre conscience. Pour moi, il faut passer au soulèvement populaire pour les chasser. D'après Gabi Gang, passer au soulèvement populaire. Monsieur Paul Nsapou, vous êtes d'accord quand les jeunes réfléchissent comme ça, vous de droite de l'homme, quand ils disent, voilà, comme Floribert Berla dit, hein, c'est le ras-le-bol, et les jeunes se disent, on veut le soulèvement populaire, c'est normal?
Eh bien, quand il y a entêtement de dictateurs, quand le citoyen perd d'espoir, il y a ce genre de stratégie à mettre en place. C'est encore minimaliste, puisqu'il y en a carrément qui vous disent il faut prendre les armes. Mais nous, défenseurs de droits de l'homme, nous, activistes pro-démocratie, nous disons, bon, la révolution est une révolution positive où pratiquement l'ensemble du peuple s'élève pour revendiquer ce droit. Un tel mouvement est encouragé. Mais avec de nouveaux acteurs, il faudrait absolument les aider, les encadrer pour que un tel mouvement aboutisse. Sinon, comme vous savez, ces dictatures en Afrique ont détruit pratiquement la jeunesse qui pourtant est l'avenir de ce continent. Et donc, un avenir qu'on promit. Une jeunesse corrompue et qui pratiquement est récupérée par les forces négatives qui pullulent en Afrique et qui sont pratiquement dans des mouvements extrémistes et qui causent une misère à la population, aux populations civiles, et qui sont même utilisées par ces dictateurs pour créer des situations de crise entretenues, enfin, d'être à la fois des pyromanes, d'être à la fois considérés comme des solutions dans certaines situations, comme en République démocratique du Congo, à l'est de ce pays, et dans la sous-région des Grands Lacs, etc. Donc, il faut étudier le cas par cas. Nous, à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, nous avons un programme pour ce faire. Nous avons également la possibilité de suivre tous ces mouvements de jeunes et des femmes qui veulent se mettre debout, qui se mettent debout pour revendiquer leurs droits. Et nous essayons, tant soit peu, de les accompagner, puisque sinon, s'il n'y a pas d'accompagnateur, on risque de les récupérer d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi aujourd'hui, me voir à côté de Filimbi, me voir à côté de la Loucha, me voir dans les fronts citoyens, ce n'est pas un péché. Et donc, comme certains peuvent le dire, donc nous soutenons tous ces mouvements pro-démocratie. En Afrique, on l'a fait au Sénégal avec les Yanamar, et on l'a fait pour le Burkina avec les citoyens, mais bien avant ça, avec les Tunisiens, la société civile tunisienne, etc. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pratiquement créer des passerelles entre ces jeunes, créer des synergies
agissante et permettre à tous ces mouvements, à leurs animateurs, d'accéder dans des forats où il y a des décideurs qui pratiquement ont les yeux fermés, les oreilles bouchées, quand bien même les réalités que nous vivons chaque jour demandent que le minimum des conditions de vie soient respectées, puisqu'il y a de la richesse sur cette terre, sur ces continents-là, et qui peut se suffire et répondre aux besoins de leur population.
Merci beaucoup, M. Paul Tsapou. L'épique Zassiat, c'est Zouglou. On continue avec toute la musique. Original Mr. Flavor for the dancehall, the dance.
Comme vous le savez, Babylone est très tôt. Si tu les arranges pas, ils vont tout faire pour te sauter. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Que tu sois président, ils vont t'enlever.
Zassiata collectif Zouglou Music. Et je vais poser cette question. Je commence d'abord avec Floribert. Floribert, j'ai une question ici. À qui profite le soulèvement populaire? Au Burkina Faso, par exemple, aux anciens lieutenants de Compaoré, en Égypte, aux anciens lieutenants de Moubarak, en Libye, aux vendeurs d'armes. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement? Parce que, deux fois, quand il y a ce soulèvement aussi, ça profite à tous ces gens-là. Et finalement, on se demande vraiment, est-ce que c'est nécessaire, le soulèvement? À quoi ça sert, ce soulèvement?
C'est une très bonne question. Moi, pour ma part, je pense que le soulèvement populaire n'est pas une fin. Il faut faire très attention, c'est un moyen. La fin, l'objectif, finalement...
Un moyen qui aide...
Un moyen, à un moment donné, qui doit permettre...
Qui pas nécessairement pas aide la population.
Qui n'aide pas la population. Mais c'est un moyen qui doit, à terme, permettre à ce que les dirigeants, les leaders, agissent en faveur de cette population. Donc ça peut être une étape. Je prends l'exemple du Burkina Faso aujourd'hui. Je sais que c'est frustrant, le Burkina, le Sénégal, c'est assez frustrant. Mais ce sont des étapes. Aujourd'hui, au Burkina, il est difficile de revenir à un système dictatorial où un chef de l'État va rester 20, 30, 40 ans parce que la population est déjà debout. C'est donc un pas qui a été effectué en avant pour permettre qu'à terme, effectivement, d'autres personnes qui auront peut-être d'autres méthodes, d'autres manières de faire les choses, une nouvelle génération voit le jour et dirige comme on le souhaite et qu'il y ait un véritable changement de système et qu'il y ait véritablement une alternative qui soit proposée. Donc j'estime que ce sont des moyens qui permettent, comme au Burkina ou au Sénégal, qui permettent de franchir une étape positive. On ne peut pas changer un système du jour au lendemain. Le système est là, est ancré dans la société, dans l'économie, dans l'armée, dans la politique. Donc ce sont des systèmes qui sont ancrés et de manière très forte, parce que ce sont des régimes qui ont duré pendant 20, 30, 40 ans. Et donc, il n'est pas raisonnable et responsable de dire qu'on peut changer un système sur un simple soulèvement. Mais je pense, comme au Burkina, qu'à un moment donné, lorsque les autorités ne comprennent pas, n'ont pas compris les demandes de la population en ce qui concernait l'alternance, c'était le seul moyen, je pense, pour mettre un terme à un système dictatorial. Maintenant, c'est un pas vers l'avant. Cette génération à laquelle j'appartiens, à laquelle nous appartenons, doit faire un deuxième travail. Elle doit préparer des véritables alternatives dans tous les domaines, économiques, politiques et tout le reste. Ce qu'on ne trouve pas, ce qui n'existe pas, parce que ces systèmes ont étouffé tout ça. Donc le soulèvement ne permet pas une émergence soudaine et spontanée d'une nouvelle génération de leaders. Cette génération politique, économique et autre, cette génération doit maintenant en même temps travailler pour l'émergence de leadership alternatif. Donc ce sont des étapes, c'est un processus et je pense qu'il y a moyen ou long terme, mais qui évolue bien pour moi comme au Sénégal ou au Burkina, il faut quand même savoir le dire.
Je sais quand je suis en train de dire politique, il s'est dit non Roger, je fais pas la politique. J'ai lu quelque part, je me rappelle pas exactement c'est où, mais est-ce que vous travaillez dans le Filimbi avec des opposants congolais?
Au sein du Front Citoyen, effectivement, nous travaillons. Le Front Citoyen est l'une des, c'est la plus large plateforme aujourd'hui que vous avez citoyenne, qui comprend les principaux leaders, organisations d'opposition au Congo et les principales organisations de la société civile. Mais attention, cette union est une union citoyenne. Nous sommes ensemble pour un problème qui va au-delà des positionnements politiques, qui touche à la survie, je pense même, et à l'avenir du Congo, qui est le respect d'un principe que nous devons maintenant intérioriser de manière ferme, qui est l'alternance démocratique et le respect des règles établies. Parce que le respect des règles établies pour nous est une étape. C'est pas ça qui permet le changement, encore une fois, je tiens à le préciser. Mais c'est une étape qui devra permettre, encore une fois, à une nouvelle génération de se préparer et de proposer des alternatives qui permettront à terme un changement. Le changement ne vient pas en un déclic, en un soulèvement ou en tout ça. Donc nous sommes associés avec des politiciens pour justement faire respecter cette règle-là. Une fois qu'il sera acquis que l'alternance sera irréversible, ben le Front Citoyen aura rempli sa mission et nous, en tant que citoyens, nous reprendrons simplement notre position. Mais je reviens sur le point politique, Roger, tu peux le permettre.
Bien sûr.
Je veux insister là-dessus. La politique n'est pas une tare, la politique n'est pas faire de la politique, et c'est malheureusement c'est l'impression que ça donne à cause des dirigeants que nous avons eus au cours de ces dernières décennies. La politique devient comme un péché. Faire de la politique, et je le dis aux jeunes que nous sommes, ce n'est pas une tare. Donc nous pouvons et nous devons faire de la politique. Les décisions se prennent au niveau politique, donc nous ne devons pas avoir honte, mais nous devons la faire différemment, avec d'autres méthodes, avec des valeurs, avec un idéal, et c'est ça qu'il faut maintenant impulser.
Voilà. Encore une autre question, Floribert, qui vient d'arriver là. Que répondez-vous à ceux qui disent que Lucha, Filimbi, Ballet Citoyen, Yanamar sont des mouvements créés par l'Occident pour faire pression au président africain?
Écoutez, moi, je vais parler pour Lucha et Filimbi, que je connais particulièrement bien.
Là, ça a été dit, hein.
Jusque-là, ça a été dit, et ça continue à être dit. Ouais. Je n'ai pas encore eu un coup de téléphone.
Vous personnellement, vous travaillez avec des Américains.
Un coup de téléphone ou un email de quelqu'un du FBI ou des services secrets américains à ce sujet. Non, je pense que ça, ce sont des fantasmes. Et puis deux, c'est une campagne, une contre-campagne qui est menée finalement contre les personnes qui refusent que cette génération se lève. Et surtout, c'est une insulte pour nous, les Africains, pour notre génération. En général, on veut nous dire en fait qu'aujourd'hui, pour qu'un Africain se lève et dise ça suffit, il faut que quelqu'un de l'extérieur, un Américain, un Belge, un Français, lui dise viens, on va t'aider à dire ça suffit. Ça n'a pas de sens. Ce qui est certain par contre, et ça il faut le dire, le monde aujourd'hui est ce qu'il est. Donc très clairement, les mouvements ne sont pas fermés à échanger avec le monde. C'est comme ça que lorsque nous lançons le Filimbi en 2015, nous invitons nos frères et compatriotes africains du Ballet Citoyen du Burkina Faso et du Sénégal. Donc à un moment donné, nous sommes ouverts au monde. Ça c'est clair et net, nous ne disons pas que nous sommes fermés au monde. Mais très clairement, ni Filimbi, ni Ballet Citoyen, ni le Yanamar ou encore la Lucha n'ont été créés ou sont manipulés par les puissances.
Mais il y a ceux-là qui ont condamné aussi de voir des étrangers venir en RDC pour travailler avec les Congolais.
Ceux-là ne connaissent peut-être pas l'histoire de nos pays. Alors revenez sur l'histoire de l'indépendance. Lumumba a fait quoi ? Quand on parle des indépendances, à quel moment on parle ? À partir de quel moment on parle de l'indépendance du Congo de l'époque ? Lumumba est allé où ? Il est allé au Ghana. c'est Nkrumah qui inspire finalement Lumumba et qui en bout de ligne amène l'indépendance au Congo de l'époque. Non, je pense qu'à un moment donné, ça encore une fois, c'est une contre-campagne qui est menée. Nous devons être capables de tirer profit des expériences des autres, de tirer profit de ce qui a marché chez les autres. C'est ça finalement. Donc ce que nous avons
fait. C'est ce que vous étiez de faire.
Ce que nous avons fait, ce n'était pas de recréer un Yanamar au Congo. C'était nous avons créé notre mouvement. Et ce que nous avons fait, c'est partager avec d'autres qui ont su mettre des mouvements un petit peu similaires simplement.
D'accord. Voilà. Benny Aurel nous appelle de Bujumbura. Benny Aurel, est-ce qu'il est encore là? Allô, Benny Aurel.
Allô, bonsoir.
Bonsoir. Benny Aurel, comment ça va?
Ça va très bien. Ça faisait un bail.
Ça fait vraiment un bail, Benny Aurel. Est-ce que vous avez une question pour nous inviter aujourd'hui? Ou un commentaire?
Non. C'est juste un commentaire.
Oui.
Oui, les jeunes sont manipulés des fois, à part certains politiciens. Lorsque les jeunes s'expriment contre les présidents qui veulent s'approcher au pouvoir, il y a une mère. L'opposition. Là, je me réfère à ce qui s'est arrivé ici au Burundi sur le cas de notre président. Il y a une mère toujours de l'opposition, l'opposition qui appelle toujours à des manifestations dites pacifiques, alors que ce n'est pas du tout des manifestations.
Merci beaucoup, Benny Aurel. Merci beaucoup, Benny Aurel. Merci, malheureusement, le temps nous fait défaut. J'ai dit merci à Floribert Anzuludi et merci à M. Paul Nsapp d'être passé dans RM Show. Ça ne sera pas la dernière fois, ça c'est sûr. Merci pour votre temps. Dans un instant, les nouvelles, c'est avec notre collègue... c'est qui est là? Oui, c'est... Mon ami... Morgane Diriac. J'adore Morgane. Voilà les amis, les nouvelles, c'est dans un instant. Peace Africa.